Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette séance de notre rendez-vous Trésor du Doc. Donc vous avez le programme, presque tout le programme, dans la mesure où c'est une programmation où c'est associé avec les ateliers Varan pour 5 séances. Donc la semaine dernière, il y a eu la première séance de ce cycle de 5 séances et la dernière séance aura lieu également aux ateliers Varan. Et on a fait un petit programme, une jolie feuille de salle, comme on dit. Donc j'espère que vous l'avez tous, où il y a l'intégralité du programme précis. C'est un cycle, je dirais, un petit peu particulier, qui trouve sa source dans une lecture. C'était une lecture que j'ai faite à l'été 2021. C'est une lecture de ce livre. Je vais faire comme dans les émissions littéraires, hein, comme ça, celui-ci. Donc, Jean Rouch, Salut d'irrémédiable et autres saluts, hommages et portraits. Et vraiment, spontanément, je me suis tourné vers le coupable de ce livre, qui est Andrea Paganini, qui a réuni et présenté ses textes. Et avec vraiment l'envie de tout de suite de transformer ça de trouver une forme pour presque adapter le livre, si on peut dire, à des séances avec des projections. Donc de croiser lecture et projection. Et puis ça s'est fait finalement très vite et très naturel. On était tous d'accord. Et donc les ateliers Varan aussi ont eu un petit peu le même élan, on va dire, que nous ici. Alors nous voilà donc à la deuxième séance. La première séance a eu lieu, donc, comme je l'ai dit, aux ateliers Varan la semaine dernière. C'était une séance qui tournait beaucoup autour de la nouvelle vague, et puis aussi où deux jours avant sa disparition, il y a eu des extraits et puis des propos aussi autour de Jean-Luc Godard. La séance d'aujourd'hui tourne autour d'un autre lieu, d'un autre temple, si on peut dire, qui est la Cinémathèque française, dont vous connaissez peut-être pour certains très bien le compagnonnage très riche et long entre Jean Rouch et la Cinémathèque française. Et donc, dans ce cadre, on a le plaisir d'accueillir, je dirais, une des descendantes de Henri Langlois, en la personne d'Émilie Coqui, que je vous demande d'accueillir aussi, si vous voulez bien. Le déroulement de la séance, eh bien, c'est Andrea qui va s'en charger. Je vais maintenant lui laisser la parole et c'est juste donc il va nous expliquer comment s'articulent les lectures. Il va aussi nous présenter les textes, les contextualiser, et puis ensuite ainsi que les films. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance et je remercie vraiment Andrea pour ce beau compagnonnage, ou potlatch, comme aurait dit Rouch.
Merci Arnaud. Oui, c'est un plaisir de préparer ce tout petit cycle de 5 séances où seront lues par un lecteur ou lectrice à chaque fois différent une quinzaine de textes de l'ouvrage. Il y en a 63 en tout. Et où seront montrés 20-25 films ou extraits de films. Évidemment, en regard avec ces textes, de manière plus ou moins directe, parce que voilà, on ne pouvait pas illustrer tout parfaitement. D'ailleurs, l'illustration parfaite n'existe pas. Et donc, on essayait plutôt de créer des échos, des résonances, des prolongements parfois. Donc, ce texte est sorti en mai dernier. Il est constitué de 63 textes de Jean Rouch, assez particuliers. Ce n'est pas du tout exhaustif par rapport à la quantité ni à la qualité de ces textes généralement, qui sont très très variés, qui vont du texte ethnographique au texte de témoignage de cet ordre-là. Parfois, il y a des commentaires de films. Il a même écrit pour Pariscope, par exemple, Jean Rouch, à la sortie de films. Il a écrit pour des rétrospectives de films, par exemple à la Cinémathèque française lorsqu'il était président. Une très belle rétrospective Jean Epstein, dont le texte figure a été recueilli. Voilà, donc c'est des textes très particuliers que Rouch écrit à la fin de sa carrière, disons les années 80-90, et qui sont un peu déterminés par ça, c'est-à-dire par le départ, plus ou moins attendu, plus ou moins grave, de compagnons de route, de tout ordre, voilà, que Rouch salue donc ainsi. Salut d'irrémédiable est la traduction qu'il fait en ethnographe poète d'une expression Songhai Zarma, Fondatilas, qui justement est vouée à saluer le départ d'un être proche. Ses compagnons de route, c'est des gens très divers. J'ai fait une petite postface au livre en parlant du petit monde et du grand monde de Jean Rouch. Voilà, ça va de programmateur anonyme à Henri Langlois, justement, donc de personnes très connues et très influentes à des personnes qui travaillent dans l'ombre et que Rouch salue d'une manière aussi chaleureuse que les grandes personnes, disons. Voilà, c'est des textes de circonstances aussi. Parfois, ils ont été publiés sur des supports éphémères. Dans Le Monde, par exemple, il y en a eu un certain nombre. D'ailleurs, dans Le Monde, justement, il y aurait dû avoir la nécrologie, si on peut dire ça. Je n'aime pas du tout ce terme, puisqu'en plus, les textes de Rouch pour une personne disparue sont très vivants, sont très chaleureux et très beau. Donc il a écrit par exemple un salut d'irrémédiable à Mary Merson pour Le Monde, comme parfois il ne l'a pas envoyé à temps, et ce qui fait que le texte publié pour Mary Merson est un texte signé Jacques Siclier, voilà, et le texte est resté inédit, mais il est dans l'ouvrage. Mary Merson bénéficie d'un autre texte, écrit 3 ans avant sa disparition, 1990, et c'est le premier texte que nous lira Émilie. C'est un très très joli texte, et il est tout à fait unique, parce que Rouch parle à la place de Merson, en quelque sorte. Enfin, il dit qu'il nous rend compte de ce que lui aurait dit Mary Merson. Alors je pense qu'elle a dû lui dire beaucoup de ces choses-là qu'il nous transmet, mais peut-être pas tout. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un texte coécrit par Mary Merson et par Rouch. Voilà, en tout cas, extrêmement frais et très étonnant sur l'histoire du musée de l'homme depuis le XVIIe siècle, depuis le fameux couvent des Visitandines. Voilà, c'est le premier texte qui sera lu ce soir. Et ensuite, deux textes dédiés à Langlois. Le suivant est donc le dit du musée Henri Langlois, est fait à la même occasion que celui pour Mary Merson. Donc c'est l'époque où Jean Rouch est président de la Cinémathèque française, de 1987 à 1991, pendant 4 ans. Mais naturellement, il a des activités hors de la Cinémathèque aussi, et notamment au RIAV, c'est-à-dire aux Rencontres internationales de l'audiovisuel scientifique, aussi appelée Images et Sciences, qui est cette grande manifestation du CNRS mise en place par Jean-Michel Arnold, donc un des grands amis de Jean Rouch, et dont il est le délégué général avec Annick Demeul, sa femme qui le seconde. Et Rouch est tout à fait présent au RIAV. Il conçoit, il intervient, il anime des débats, il conçoit des programmations. Il signe des textes pour le catalogue, toujours très épais, dirigé par Jean-Michel Arnold. Et voilà, et ces deux textes, justement, figurent dans le catalogue de la 7e édition des RIAV de 1990, qui est assez particulière, puisque, en quelque sorte, la manifestation internationale revient à Paris et s'établit à Paris. Elle ne quittera plus Paris, alors qu'elle avait eu des éditions en Californie, en Italie, à Venise, etc. Et en plus, elle s'établit également à la Tour Eiffel, sur la Tour Eiffel, au premier étage, où il y avait aussi quelques banquets et autres réjouissances. Il y avait un prix qui était donné à la fin de la manifestation sur la Tour Eiffel même. Et donc pour le RIAV, Rouch a deux casquettes, d'où les deux textes. Alors celui à Mary Merson, il le signe en tant que secrétaire général du comité du film ethnographique qui siégeait, comme vous le savez, au Musée de l'Homme, et d'ailleurs pour une rétrospective de films documentaires projeté pour l'occasion, qu'il a programmé et pour laquelle il assure les débats en invitant les réalisateurs comme à son habitude. Donc ça, c'est le texte Amerson. Le texte à Langlois, le premier texte à Langlois, est un texte pour une autre rétrospective. Alors là, il a la casquette du président de la Cinémathèque française, et c'est sur les images en général, y compris les images des premiers temps. Et donc, il brosse un portrait de Langlois assez joli, puisqu'il fait parler toute une série de personnes qui ont croisé le chemin de Langlois, de Louis Deluc à Jean Cocteau à François Truffaut, en prenant des extraits de choses dites sur Langlois, sur la Cinémathèque bien sûr, et sur le musée Henri Langlois, puisque la séance d'aujourd'hui se concentre sur le musée essentiellement, qui est l'autre face de la médaille du grand œuvre de Langlois. Il y a la Cinémathèque d'un côté, le musée du cinéma de l'autre, et naturellement les deux choses vont ensemble, comme vous le verrez dans la projection du film qui suivra aux lectures. Dernier texte, donc le second texte sur Langlois, que lira Émilie aujourd'hui, 91, donc c'est à peu près au même moment, et c'est une préface pour le catalogue raisonné du musée Langlois, justement, qui sort en 91. La préface, d'ailleurs, du premier volume, c'est en trois volumes, c'est un magnifique ouvrage, coédité par Mecht. Vous avez même le générique, en quelque sorte, de l'ouvrage et de ses auteurs à la fin du texte, à Langlois, qui vous sera donc lu. Et le premier volume est justement préfacé par Jean-Luc Godard. C'est une transcription d'une discussion entre Freddy Buach et Jean-Luc Godard qui ouvre ce premier volume. Rouche, avec sa politesse légendaire, signe le dernier volume que Émilie nous... avec le texte qu'Émilie nous lira. Donc après ces trois textes, un à la suite de l'autre, on verra comment Rouch a aussi rendu hommage par le cinéma à Langlois dans son musée avec Jérôme Blumberg, je ne sais pas s'il est présent ou pas, il aurait dû être là, c'est-à-dire la personne qui a filmé le film. Voilà. Mais je vous en parle après et je cède donc la place à Émilie qui va nous lire les trois textes.
Merci. Bonjour. L'histoire du musée de l'homme telle que me l'a racontée Marie Merson, 1990. Mon petit, vous ne savez pas ce qu'était la colline de Chaillot il y a bien longtemps. C'était un couvent. Oui, un vrai couvent avec des religieuses, des jardins potagers et des murs d'enceinte. Il y avait aussi des prêtres qui n'étaient pas tout à fait dans les normes de l'Église. Ils disaient que la meilleure manière d'atteindre la béatitude était de se livrer à des actes sexuels. À l'abri de ces remparts, la colline de Chaillot resta longtemps hors du scandale. Et puis un jour, celui-ci éclata. On démolit le couvent et les religieuses bien entraînées cherchaient les clients de passage dans les nombreuses cavernes des carrières de Chaillot. Et oui, c'était celles-là les folles de Chaillot dont s'était inspiré Giron Giraudoux. Il fallut attendre le Premier Empire pour que Napoléon décide de construire sur cette colline maudite le palais du roi de Rome. On en trouve encore les fondations et la salle de cinéma d'Henri en conserve les voûtes. Et en dessous du musée de l'Homme se perdent encore des souterrains qui permettraient de visiter toutes les caves du 16e arrondissement. Alors qu'allait se dresser la tour Eiffel, les architectes décidèrent de créer là un palais oriental avec un théâtre national populaire et un musée d'ethnographie. Ce musée, mon petit, était un lieu extraordinaire, plein de dioramas et de statues d'hommes sauvages. Les enfants en avaient peur, mais en rêvaient toute la nuit. Et dans les jardins du Trocadéro, en jouant au cerceau avec les jolies petites filles qu'ont inspiré Marcel Proust, les garçons décrivaient leurs expéditions extraordinaires à Zanzibar, à Tombouctou, en Amazonie ou chez les Esquimaux du Grand Nord. Et c'est comme cela que l'un d'entre eux, le docteur Paul Rivet, eut l'idée de créer en 1937 un véritable musée de l'homme qui deviendrait le carrefour de tous les rêves. Et croyez-moi, mon petit, il avait tout prévu, puisqu'il me fit venir de Londres pour me faire rencontrer Henri Langlois. Comme dans les contes de ma grand-mère, Marie Merson s'endormit jusqu'à la prochaine histoire. Le dit du musée Henri Langlois, 1990. Quand en 1922, Louis de Luc définissait le cinématographie comme l'industrie artistique du cinéma, il ne pouvait prévoir que moins de 20 ans plus tard, elle serait devenue un patrimoine aussi précieux que les arts plastiques, mais encore plus fragile, encore plus difficile à conserver. Et si, vers 1950, Jean Cocteau pouvait magnifiquement dire à Henri Langlois « Tu es le dragon qui veille sur nos trésors », et il ne savait pas que ce dragon devrait d'abord en inventer la caverne. En 1965, Abel Gance n'hésitait pas. « Cher Henri, vous êtes le coffre-fort de la Cinémathèque internationale. » Henri Langlois lui répondait simplement « Je suis un peu trop gros pour cela. » Il racontait l'aventure extraordinaire de ces deux jeunes gens, Georges Franju et lui-même, qui avaient réussi à convaincre M. Harlay. Il n'y a pas eu de début, simplement la salle FIF au-dessus de Marignan. Tout le monde venait, il y avait Sartre, Gide et moi qui étaient ridicules quand je cafouillais en voulant présenter un film. Mais tout le monde riait et moi aussi je riais avec eux. Georges Franju confirme. Henri n'est pas désordonné, il a un sens scientifique du désordre. Kamenka surenchérit. Quand Henri m'a demandé le fond des films Albatros, je le lui ai donné. Et tous les producteurs ont fait comme moi. On va lui donner tous nos films, on verra bien ce qui se passera après. Et puis de toute façon, ils auraient été détruits alors. Alors, il y eut l'avenue de Messine que François Truffaut découvre en 1948. J'y revenais tous les soirs, au premier rang, parmi les fanatiques qui regardaient les films couchés par terre. Et c'était très agréable. Et Henri Langlois raconte. Et puis il y eut Chaillot, une salle, donc un musée. La grande force de la Cinémathèque, c'est d'avoir poussé comme un arbre, comme il voulait. Parfois on les lague, mais c'est la vie. Car projeter des films, lire des livres sur le cinéma, constituer des bibliothèques, constituer des cinémathèques, ce n'est pas assez. C'est déjà le passé. Alors il faut constituer le musée du cinéma. Cela, c'est aujourd'hui. C'est la deuxième étape. Quelle sera la troisième étape? Mystère. Après 10 ans de plans, de tracés, d'essais, de peintures, Henri faisait le bilan. Une cinémathèque est un musée, avec une salle de projection pour pouvoir initier le public et donner du plaisir aux 100 passionnés de cinéma. Mais c'est aussi une bibliothèque où les chercheurs pourraient consulter une copie 16 mm de tous les films du monde. Et comme l'écrivait Georges Sadoul, ces dizaines de milliers de films, ces tonnes de scénarios, de livres, de photographies, de manuscrits ont ainsi constitué un musée du cinéma, non pas imaginaire, mais universel. Ainsi est né notre sanctuaire du cinéma, notre caverne initiatique, où, entre le décor, les affiches, les machines de tous les temps, de tous les pays, se découvre l'itinéraire le plus inattendu, celui dont chaque détour pose une énigme, dont la réponse sera l'épreuve permettant de poursuivre l'aventure. Et où les réalisateurs et les films du monde entier n'arrêtent pas de se répondre, de se mettre en scène les uns les autres. Comme disait Pierre Caste au Festival de Cannes en 1977, ainsi Henri Langlois laisse-t-il derrière lui son œuvre propre, étonnamment composée de celle des autres et paradoxalement d'autant plus personnelle. C'est le chef-d'œuvre exemplaire, déjà modèle du musée de l'image animée de Londres, du prochain musée du cinéma de Moscou, du nouveau musée du Caire, que nous nous sommes fait un devoir de conserver à jamais. Les mille et une nuits d'Henri Langlois, 1991. C'est son dernier rêve, fou et inachevé, son pays des merveilles. Au début, ce devait être 3/4 siècle de cinéma mondial. Une exposition fulgurante comme celle du Palais de Tokyo qui avait suivi l'expulsion de l'avenue de Messine. Car c'est le grand destin des grands nomades de croire, chaque fois, que la terre promise est là, derrière la colline de Chaillot, ici même où la Cinémathèque française s'était réfugiée pendant l'occupation allemande, projetant furtivement, mais à grand risque, des images interdites dans la salle de cinéma du Musée de l'Homme et inventant pour notre jeunesse humiliée les écrans de la liberté. C'est dire qu'Henri Langlois était ici, chez lui, comme partout, jusqu'au prochain déménagement. Cela devait arriver en février 68. Les cinéastes du monde entier ont fait revenir sur leur décision André Malraux, Georges Pompidou et Charles de Gaulle. Henri Langlois, détaché du grand désordre de mai 1968 auquel il avait indirectement participé, finissait son musée de Chaillot, en préparant un autre musée sous un métro aérien de New York. Alors, en imaginant une salle Méliès où il aurait pu tout reconstituer en vraie grandeur et il aurait fait fonctionner les machineries, il joue au mécano d'une mise en scène symbolique sous l'œil ébloui du géant des neiges, reconstitué pour lui par le peintre Félix Labisse. Car ils sont venus là, tous ses copains, dans cet atelier fou, ouvert nuit et jour, et plutôt nuit que jour. Henri leur demandait des conseils, les écoutait à peine, car il n'en faisait qu'à sa tête. Il dormait, mangeait, rêvait là, inventait le modèle de tous les futurs musées du cinéma. Mais il se servait de nous pour en vérifier les esquisses successives, commençant par la fin, comme en poésie, comme en montage cinématographique, poursuivant par le début et inventant l'intervalle au gré de sa fantaisie. Il disait « Je travaille d'instinct et avec mon subconscient. » Je suis moi-même étonnée d'avoir pensé à telle couleur d'alcôve ou de mur, alors que je n'avais aucune idée précise des objets que j'allais y exposer. Je travaille dans l'improvisation et le désordre, je veux dire dans le désordre apparent de la vie. Un arbre pousse au jour le jour, il ne pousse pas selon les plans d'architecte. Ainsi, comme dans l'éducation traditionnelle africaine où le maître ne répond qu'à des questions posées, il suscitait les nôtres par des effets de surprise. Un soir, dans la salle des Frères Lumière, il faisait accrocher par ses complices de toujours, Charlot Emberger et Roger Touré, des tentures que Lotte Eisner venait de dénicher au marché Saint-Pierre. Avec un regard moqueur, il me dit « Tu comprends pourquoi Lotte a choisi cette teinte-là » En découvrant cette même couleur lit de vin dans les tentures de la première affiche Lumière que Roger fixait au mur d'en face, j'eus la chance de poser la bonne question. « La projection du Grand Café ?» Il sourit. « Bien sûr, les teintures indiennes du Grand Café. » Alors, reçu à mon examen, je fus invité à partager l'immense tarte aux cerises que Marie Merson apportait quotidiennement à ses fous de Chaillot. Et puis on repartait essayer sur un autre mur un vert amande ou un gris souris, et la rébarbative galerie courbe du palais devenait tout d'un coup un arc-en-ciel. Ainsi, d'insomnie en réveil, est né ce camp du drap d'or, cette fastueuse étape où l'on étale tous les tapis persans, tous les tissus des routes de la soie, où l'on allume toutes les lampes d'Aladin, où l'on ouvre tous les coffres de toutes les îles au trésor, et qu'importe si les bijoux de la bégome rutilent au cou d'Antinéa, où Pierre Braquemont, à coups de lime et de coups de chance, reconstitue les pantomimes lumineuses du théâtre d'optique qu'Émile Reynaud, au désespoir, avait jeté dans la Seine et dont il ne reste plus qu'une gravure. Ainsi, le campement provisoire de Chaillot a été la dernière étape de cette errance dont quelques-uns se rappellent encore les caravansérails successifs. Milan, 1938, Rome, 1939, Lausanne, 1945, 7 avenue de Messine, 1945-1955, musée d'art moderne, 1955-1956, 29 rue d'Ulm, 1956-1975, 82 rue de Courcelles, 1959-1978, palais de Chaillot, 1963. L'hommage à Étienne Jules Marais permit d'ouvrir la salle de projection du Trocadéro, dans les grandes arcades des fondations inachevées du palais de roi de Rome. Ce fut le sésame qui nous ouvrit à jamais la caverne d'Ali Baba. Mais, comme les peintures de Lascaux, ces trésors sont fragiles. C'est notre devoir à nous, les enfants de la cinémathèque, de les conserver, de les entretenir avec un soin aussi méticuleux que celui que son créateur. De les faire vivre avec le cinéma d'aujourd'hui. « Magie noire, magie blanche », écrivait déjà en 1948 André Bazin dans l'écran français. D'emblée, vous êtes saisi par le spectacle plus sûrement que dans le petit train de ces baraques foraines qui prétendent vous faire visiter l'enfer. Une salle toute tendue de noir vous contraint au labyrinthe de ces vitrines et de ces grottes obscures. Il faut vous y aventurer. Le Minotaure ici, c'est le cinéma. Lotte Eisner, premier conservateur du musée, disait « Il doit être une fenêtre ouverte sur le cinéma. Vous aurez envie, après l'avoir visité, de voir des films. » Tous les objets deviendront pour vous aussi vivants que 24 images projetées chaque seconde. Il faut aller plus loin, continuer cette œuvre. Henri Langlois avait délibérément arrêté son musée aux années 50. Après, il y a trop de films. Il faut faire des séries d'expositions temporaires. La suite, ce sera le projet Cinémathèque, à côté, au Palais de Tokyo, qui doit être à la fois le complément de Chaillot, qui ne gère que le dixième des collections non-films de la Cinémathèque, la bibliothèque cinémathèque de l'IDEC, réinstallée dans une médiathèque ouverte aux curieux, aux cinéastes, aux chercheurs, et un atelier de recherche et de réalisation. Ce musée vivant du cinéma, ouvert sur le futur, était déjà compris dans le projet qu'il exposait en 62 à Éric Rohmer et Michel Mardor. N'est-ce pas ainsi que toute sa vie a été orientée ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse de nouveaux films. C'est que le cinéma avance. Pour moi, la diffusion de la culture par les cinémathèques consiste à créer le futur, car une cinémathèque est le musée d'art vivant, un musée qui n'est pas seulement celui du passé, mais de l'avenir. Pour moi, la victoire de la cinémathèque, c'est d'avoir rendu possible les 400 coups, le beau Serge, Paris nous appartient, le signe du lion, à bout de souffle, comme le rideau cramoisi, Paris 1900, d'avoir aidé Rennais et Rouche, d'avoir contribué jadis à Milan et à Rome en 1938 à la genèse, aux sources du néo-réalisme. Ce catalogue, élaboré sous la direction de Marianne de Fleury et Dominique Lebrun, par une équipe d'historiens de la Cinémathèque française, et avec la collaboration sur le plan international de cinéphiles, de collectionneurs, de chercheurs et de musées du cinéma, est un outil de référence pour les spécialistes. Les images du musée, comme les photos des caméras, des appareils, des maquettes de décors, des dessins originaux, des costumes, des objets rares de cette collection admirable, évoquent avec ces textes une histoire du cinéma selon Henri Langlois. Le but de cet ouvrage, réalisé à l'initiative d'Huguette Marquant-Ferreux et édité grâce à Adrien Mag, est de perpétuer la mémoire et le lieu du musée, tremplin indispensable à une nouvelle création et source inépuisable de rêves et d'histoires. Merci.
Oui, on a oublié de présenter Émilie, qui donc travaille à la Cinémathèque française et qui est chargée de la valorisation film. Et c'est elle, on va en parler après, si on peut répondre à vos questions, c'est elle qui a mis en place Henri, cette magnifique plateforme sur Internet, où d'ailleurs il y a une section merveilleuse sur Henri Langlois, qui a été filmée quand même assez régulièrement, notamment dans son musée, les années 70 surtout. Voilà, donc je vous incite, si vous ne la connaissez pas déjà, à aller sur la plateforme Henri et à voir en particulier cette section Langlois. D'ailleurs, nous avons puisé pour ce programme une autre section, celle sur le cinéma d'avant-garde et les incunables. Voilà, donc maintenant on va voir un film, donc une visite guidée du musée du cinéma Langlois par Jean Rouche lui-même. Ces textes qu'on vient de lire étaient de 90-91, donc pendant qu'il était président de la Cinémathèque. Donc il a en quelque sorte mis ses pas sur ceux de Langlois de manière très, très concrète aussi. Et il a défendu depuis le début le musée du cinéma que Langlois a pu commencé à mettre en place en quelque sorte en 68. Il y avait déjà des musées du cinéma rue de Courcelles, dans les autres lieux de la Cinémathèque, donc comme Rouche le rappelle, qui a beaucoup beaucoup tourné. Et en 63, on s'installe au Palais de Chaillot. Ensuite, il y a, on va dire, pour faire très bref, 68, avec l'éviction de Langlois. Jean Rouche, d'ailleurs, est comme les jeunes de la Nouvelle Vague et beaucoup d'autres cinéastes aux premières loges. C'est pendant l'affaire Langlois qu'il va publier des textes de défense à Langlois, deux sur des quotidiens, chose qu'il n'a jamais fait pour personne. Voilà. Et après, il assiste à la réalisation du musée. Après 68-69, Langlois, il va travailler quelques années jusqu'à son ouverture en 72, en juin 72. Puis le musée existe, il évolue aussi un petit peu. Voilà. Et puis en 77, Langlois disparaît en janvier. Et le musée restera jusqu'en 97, justement, qui est l'année où Rouche prend la caméra et nous fait cette visite qu'on va voir. C'est en juillet 97. On parcourra les 19 salles, donc à partir du pré-cinéma, en passant par la salle d'Émile Reynaud, où Rouche s'attarde, jusqu'aux dernières salles, aux années 60. C'est un parcours continu. Le film a été tourné chronologiquement, si vous voulez, en changeant de bobine pendant 5 fois. Donc, c'est des bobines de 10 minutes, une après l'autre. Et Rouche s'arrête dans les salles. Il nous montre des choses qui l'interpellent. Ce qui est très beau aussi, c'est que Langlois est présent. C'est pour ça qu'on a choisi ce film, puisque c'est aussi un portrait, un hommage, un salut, bien sûr, en absence. Langlois n'est plus là, mais son œuvre est là. Et les anecdotes, des choses qui restent, que Rouche a vécues, puisqu'il a assisté à la confection du musée, si on peut dire, à sa réalisation. Le dernier texte s'appelle « Les mille et une nuits » d'Henri Langlois, évidemment, pour des raisons évidentes, on le verra dans le deuxième film, pour toute la rêverie et l'imagination et la puissance d'imagination que ce lieu contenait, mais aussi parce que, de manière très concrète, le musée s'est fait la nuit aussi, c'est-à-dire jour et nuit, sans interruption. Et Langlois dormait dans son musée, mangeait dans son musée, etc., et y compris son équipe. Donc, mille et une nuits, ce n'est pas seulement métaphorique, c'est aussi quelque chose de très concret, pour dire à quel point ce musée l'a habité et était partie intégrante de son œuvre en même temps que la Cinémathèque. D'ailleurs, les deux choses donc étaient tout à fait liées, puisque l'idée de Langlois, c'était de faire transiter à travers le musée, c'est justement l'expérience que nous fait revivre Rouche, transiter à travers le musée pour aboutir à la salle de projection où les films étaient accrochés, justement, étaient montrés, et en quelque sorte faisaient parler tout ce qui précédait, tout ce que nous avions vu, aperçu, des documents, des scénarios, aux affiches, il y en avait beaucoup, aux robes, énormément de tissus et de robes, aux objets de tournage, etc., etc. Donc c'était vraiment un parcours, on le ressent très bien dans ce film, c'est pour ça qu'il est... Il est très simple et très juste, puisqu'en quelque sorte, on revit ce passage de salle à salle jusqu'à la salle de projection, qu'on ne verra pas, mais nous y sommes, je pense. Voilà, donc, la chose très frappante, c'est que c'est la dernière fois que ce musée est filmé en l'état, puisque 2 semaines à peine plus tard, le 22 juillet, peut-être vous le savez, il y a un incendie au palais de Chaillot, c'est le musée des monuments français qui est touché, et les pompiers, en essayant d'éteindre cet incendie, inondent en fait le musée d'Henri Langlois, qui est très abîmé. Alors, la plupart des choses seront sauvées, mais voilà, il y a des dégradations importantes. Et donc, c'est le dernier état de ce musée qui, comme le rappelle Rouch, n'est pas achevé, n'a jamais été achevé par Langlois. Et voilà, qu'on a la chance de découvrir par hasard. Tout de suite après la visite de Rouch, on verra une partie des collections, et notamment les films d'animation, mais le pré-cinéma, le cinéma des années du 19e siècle jusqu'à Méliès, où, donc c'est les disques stroboscopiques, les bandes du zootrope de Reynaud. Le zootrope n'étant pas le théâtre optique que Rouch nous montre et qui a été reconstitué par Pierre Braquemont, notamment pour le musée du cinéma. Une chose très touchante, je terminerai là-dessus, c'est que Rouch, non seulement il nous donne des anecdotes sur la constitution de ce musée, sur ce que voulait en faire Langlois, mais il pointe beaucoup cette chose très étonnante, qui n'est pas tout à fait dans l'idée des faiseurs de musées aujourd'hui, peut-être et depuis, c'est-à-dire que Langlois n'hésitait pas à reconstituer, à refaire faire. Donc Reynaud, Émile Reynaud avait détruit, même au marteau, ces théâtres optiques, puisqu'il, en quelque sorte, il ne pouvait pas supporter la concurrence du cinéma naissant. Donc le théâtre optique n'existait plus. Langlois demandait tout simplement à Pierre Braquemont, qui était un de ses collaborateurs à la Cinémathèque française, de refaire, à partir d'une gravure que l'on voit dans le film, le théâtre optique. De la même manière, la robe ou une des robes de Marilyn Monroe a été volée peut-être par des étudiants, je ne sais pas. Langlois n'était pas préoccupé plus que ça, puisque Marilyn Monroe avait beaucoup de robes, n'est-ce pas? Et donc, il a sorti une nouvelle robe et l'a exposée. Voilà. Donc, cette attitude très belle et très souple par rapport à l'original et à la copie, en quelque sorte, à la reconstitution, était quelque chose que Langlois et Rouch partageaient très certainement, et voilà, et qui se voit, il me semble, dans le film. Voilà, donc bonne projection, et puis nous serons là pour répondre à vos questions ou pour écouter vos réactions. Merci beaucoup.
Peut-être d'ailleurs Émilie, qui a été, qui est donc qui a mis en place, pas toute seule hein, quand même, mais donc cette plateforme, peut-être tu peux nous dire comment a été composée ce programme d'Incunable.
Non, je suis pas toute seule à fabriquer Henri. On est une petite équipe, mais on est quand même plusieurs derrière tout ça, mais il a fallu quand même le confinement pour se décider à montrer des films sur Internet. Donc comme quoi, des fois, il y a des bonnes initiatives qui peuvent naître d'un manque quand la salle est fermée. donc ce petit montage d'incunable qui situe à peu près nulle part. C'est-à-dire que cette rubrique incunable, donc vous allez voir Henri, il y a plusieurs sections comme ça, c'est vraiment un acte de programmation. C'est pas du tout des films à la queue leu-leu par ordre alphabétique. Il y a vraiment un geste de copier effectivement un peu Langlois dans le... Quand Langlois programmait des films ensemble, il faisait déjà quelque chose, hein, voilà, comme ce qu'explique très bien Jean Rouge dans sa déambulation, c'est-à-dire qu'il y a un effort de transparence et de passage comme ça, et quand on voit une image, celle d'après résonne différemment. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans ce petit montage, il y a un moment donné où il y a des images comme ça qui se répètent, mais c'est des effets de montage. C'est-à-dire qu'il y a certaines bandes comme ça qui avaient été associées. Et on voit, bon, c'est des efforts surréalistes, hein, mais on voit un peu l'effet que ça peut produire. Mais en tout cas, il s'est vite révélé indispensable de créer cette section incunable pour mettre tous ces efforts de cinéma avant le cinéma ou d'objets, de tentatives comme ça avant que des procédés aient été brevetés et existent. Et donc ça, c'était un des grands vœux de Langlois, de démontrer que le cinéma était pas né en 1895, mais qu'il y avait eu des gestes avant, les marionnettes de Bali. Et il y a un livre qui existe qui s'appelle 300 ans de cinéma. Voilà, Langlois aimait la formule, aimait la provocation. Et donc, effectivement, il était fasciné par ces images qu'on appelle pré-cinéma, par ces objets qui ont tous des noms absolument incroyables. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté musée de l'homme avec comme ça un esprit scientifique, des machines. Des tentatives comme ça. Enfin, il y avait une proximité, je pense, à Chaillot qui n'était pas innocente. Je ne connaissais pas le film de Jean Rouch, Faire part, qui est vraiment très émouvant. Alors moi, je ne suis pas de cette génération-là. Moi, j'ai découvert le musée quand j'étais enfant, j'étais terrorisée. J'ai peu de souvenirs, si ce n'est que, voilà, que ça m'avait fait extrêmement peur, et de la moquette, en fait, la moquette de couleurs différentes. Et après, j'étais embauchée, le musée était déjà fermé. Par contre, j'ai eu la chance, évidemment, de connaître Chaillot, de pouvoir aller au cours de Jean Rouch. J'étais à la fac de Paris 1 et on nous invitait, comme ça, le lundi soir, on avait des cours de Romer, de mise en scène, et puis le samedi matin, on pouvait aller écouter Jean Rouch à Chaillot, et c'était fantastique. Mais voilà, donc il y a un esprit cinémathèque qui se dégage de ça, et Henri, bon ben voilà, c'est ça, cette plateforme, c'est le nom, on est tous tombés d'accord très vite, il fallait que ce soit gratuit, accessible au monde entier, et que ça s'appelle Henri par rapport à Langlois, et de mettre des films de la cinémathèque, mais aussi d'ailleurs, et de classer comme ça, tant bien que mal, des objets. On s'est avéré aussi ne pas être forcément les meilleurs pour parler de nous-mêmes. Il y a des documents fantastiques qui existent sur la Cinémathèque française, sur Langlois, qui ne sont pas forcément à la Cinémathèque. Et cette rubrique Langlois, alors il y a des documents qui le montrent au travail, il y a des documents où on l'écoute. Il y a une fantastique série qui s'appelle Parlons cinéma, parce que là, je trouve que ça manque de la voix de Langlois et de paroles de Langlois. Mais voilà, il y a une série canadienne qui a été produite par pas la TV Ontario, mais l'ancêtre de la TV Ontario, c'est pour ça qu'on a eu le droit de la mettre en ligne d'ailleurs, d'un monsieur qui s'appelait Harry Fishback. Excellent documentariste.
À la fin de la vie de Langlois, en 76.
Voilà, quand Langlois a été invité au Canada à donner des cours.
Et donc il raconte l'histoire du cinéma, en tout ça dure presque 5 heures, n'est-ce pas, et en s'installant dans les salles correspondantes à l'histoire qu'il raconte. Et d'ailleurs Jean Rouch l'a projeté justement ce film-là au Palais de Tokyo en 90, et il y a un texte sur ce film qui pour lui est le plus beau film sur l'histoire du cinéma, pour Jean Rouch. Je voulais saluer la présence de Jérôme Blumberg, qui a donc filmé la déambulation de Jean Rouch dans le musée en 97. Voilà. Si jamais vous avez des questions, oui, s'il veut nous rejoindre et si vous avez des questions.
L'opérateur est un grand personnage de ce film.
Très. La caméra à tonne, tout ça, on veut tout savoir. Il y a des collègues d'ailleurs au générique, il y a Marianne de Fleury, qui était directrice des collections non-films, qui n'est plus là.
Et qui a d'ailleurs publié le catalogue Raisonné,
exactement.
Justement.
Et Fred Savioz, donc oui. Il y a un film sur la plateforme Henri. Et bienvenue, allez.
Merci. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise?
C'était facile à faire.
C'était facile à faire, oui. Non, juste peut-être sur l'objectif que j'ai utilisé. Parce que Rouch, il aimait beaucoup cet objectif qui s'appelle Kern 10 mm. En fait, il y a le choix pour filmer avec un objectif à court foyer. Et il y a le choix entre plusieurs objectifs. Et lui, il aimait beaucoup cet objectif parce que c'était un objectif qui ne déformait pas trop et qui était très léger, etc. Donc, en plus, avec cet objectif, ça lui permettait aussi de savoir exactement ce que j'étais en train de faire. Donc, il pouvait, comme ça, anticiper sur ce que je faisais. Mais bon, il n'avait pas non plus trop d'a priori sur les objectifs. Il travaillait aussi avec des zooms. Je ne sais pas trop quoi vous dire.
Vous n'avez pas vraiment préparé le film, n'est-ce pas ?
Je n'ai pas non plus préparé cette intervention.
C'est pas grave.
Comment est-ce qu'il vous avait présenté ? Ou est-ce qu'il vous a seulement dit, donné rendez-vous
Il me donnait rendez-vous souvent pour aller faire un petit bout de film de quelque chose, quelque part.
Vous aviez déjà tourné ensemble assez régulièrement ?
Oui, oui. Et surtout, le musée du cinéma, enfin, on le connaissait très bien parce que dans les années, enfin, en 89-90, au CNRS, on a eu, ma collègue Barberine et moi, on a eu une année, genre une année sabbatique où notre laboratoire avait fermé, donc on ne savait pas trop quoi faire. Et la Cinémathèque et notre patron Jean-Michel Arnold nous avaient demandé de filmer tous les invités de la Cinémathèque systématiquement. Et donc, quand ces invités arrivaient, donc du monde entier, ils étaient à l'hôtel, et nous, on ne savait pas trop où les filmer, donc on avait le choix soit à la chambre d'hôtel, soit le musée du cinéma, qui nous était ouvert. Et donc, on allait au musée du cinéma pour filmer ces gens, et on a commencé à faire ça pendant à peu près un an. On a filmé une trentaine, une quarantaine de réalisateurs. Et à chaque fois, on était désemparés quand on arrivait au musée du cinéma parce qu'on ne savait pas trop où les mettre, parce que quand vous avez Nosferatu derrière ou je ne sais pas quoi, ou les toits de Paris, ou etc. Donc, c'était un peu un inconvénient. Surtout que ce musée, il est tout en longueur. Il n'y a pas vraiment d'endroit où se poser, en fait. Et c'est vraiment fait pour faire un parcours. Donc, ça a eu un effet positif. En fait, on connaissait très bien le musée du cinéma. Et chaque millimètre, en fait, je connaissais chaque millimètre du musée du cinéma, Rouche aussi. Donc, quand on était ensemble à évoluer là-dedans, on savait exactement où étaient les choses, où filmer, etc. Et donc, à chaque fois, c'était bon, donc relativement facile de faire le point, etc. Mais bon.
Et vous avez comment ? Filmé dans la continuité, du début à la fin.
Oui, ça a duré à peu près une après-midi. Bon, et puis chaque magasin, ça dure un peu plus de 10 minutes. Et bon, c'est les 5 magasins de 120 mètres, les uns derrière les autres. Je suis étonné d'ailleurs de voir comme c'est beau, quoi, la qualité de. Parce que ça, c'est pas du 16 mm, ça a été transféré. Donc.
Bon, c'était numérisé par le CNC.
Je trouve que c'est beau, mais bon.
Assez récemment.
Je suis un petit peu perdue dans l'histoire parce que le musée a brûlé. On est d'accord.
Il a été inondé. Suite à l'incendie du musée des monuments français, juste au-dessus.
Aujourd'hui, à la Cinémathèque, un musée Méliès, qui est formidable, mais le musée du cinéma.
Alors, le musée du cinéma, il y avait une exposition permanente au deuxième étage qui a été transformée en musée Méliès.
Il est où,
alors, il y a beaucoup de collections qui étaient dans ce musée permanent qui ont été donc réécrites avec l'angle de Méliès, mais il y a quand même toujours cette idée, surtout au-dessus, un peu de galerie de l'évolution. Mais c'est vrai que c'est un musée consacré à Méliès. Il y a un autre projet, il y a plusieurs projets de musée du cinéma qui sont en cours d'écriture. En dehors de Méliès, mais il y a plusieurs projets d'écriture de musée du cinéma, mais qui ne seront peut-être pas à Paris, figurez-vous.
D'accord. Donc, il n'y a plus de musée du cinéma hormis Méliès à Paris.
Exactement.
C'est incroyable.
On est d'accord. Mais déjà, Jean Rouch, dans son texte, dit qu'il n'y a qu'un dixième des collections. Et ça, c'est vrai que c'est c'est une question. Quand vous allez au musée du Quai Branly, on a beaucoup critiqué ce musée. Mais l'objectif principal, c'était de montrer quand même Moi, j'aime pas trop ce musée, mais ce que j'aime bien, c'est quand on rentre, on voit des réserves. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on voit un petit peu des choses qui ne sont pas forcément exposées, et on voit un peu. Après, donc je crois que là, il y a vraiment une nécessité d'exposer aussi nos réserves, et c'est vraiment un des objectifs aujourd'hui des équipes des expos, de trouver un espace comme ça où il y a des réserves un peu plus actives. Mais aujourd'hui, à Paris, ce n'est pas possible. On ne trouvera pas de local, on ne trouvera pas de lieu. C'est devenu impossible. On a déjà ce bâtiment à Bercy qui est inespéré, mais ça se jouera plutôt en dehors de Paris.
Ah. Parce que Hollywood lui a offert certaines choses,
comme Marabout. Oui.
Il a beaucoup acheté aussi. Il a beaucoup essayé de sauver, par exemple, le studio de Méliès à Montreuil.
Merci,
il a souhaité le faire classer. Ça a été refusé. Donc, il était très actif. Il était plutôt connu, Langlois. Donc, beaucoup de cadeaux, énormément.
Beaucoup de pratiques de collectionneurs aussi, donc oui. Je ne sais pas si on peut dire piquer, mais je pense que c'est des pratiques de collectionneurs et d'échange, et effectivement, en tout cas, moi, ce que je peux dire, parce que c'est pas forcément mon secteur, toute cette partie, enfin, je connais l'histoire des collections de la Cinémathèque, mais moi, mon domaine, c'est quand même le film, et donc je peux vous parler des copies films qui sont rarement exposées. Enfin, Langlois avait ce projet un peu fou et hyper visionnaire, qui est des boucles comme ça, qui est des appareils, des projecteurs 16 qui diffusent du cinéma, et il avait surtout un projet sonore aussi, et ça, je suis hyper contente, parce qu'on a retrouvé les bandes magnétiques. Le son, c'est souvent le parent pauvre, hein. On le restaure pas, ça vinaigre, ça pourrit, on s'en fout, mais là, on a retrouvé des bandes magnétiques qu'on a réussi à sauver, et on a vu, on a la preuve qu'il avait aussi, et ça c'est génial parce que c'était quand même extrêmement pionnier, du son. C'est-à-dire qu'il avait anticipé comme ça un parcours sonore dans le musée, puis ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, au niveau des films, ça, et le film, c'est pas moi qui l'invente, hein, mais c'est un objet qui est reproductible à l'infini. Et effectivement, dans ces cas-là, il a vraiment fait une sorte de contrefaçon, il a fait énormément de contre-types, il a énormément contre-typé des films, donc on ne peut pas dire piqué, enfin, ça faisait aussi partie du geste de sauvegarder, de protéger les films. Donc,
Et puis des collections sont arrivées des producteurs même. Rouche le rappelle par exemple pour la formidable collection Kamenka, enfin du producteur Kamenka d'Albatros, qui est peut-être un des premiers noyaux, grands noyaux de la Cinémathèque de Langlois. Et voilà, qui a été donné. Et ces films-là, s'ils n'avaient pas été donnés à Langlois, ils auraient été détruits.
C'est-à-dire que c'est toujours facile. C'est-à-dire qu'on accuse aujourd'hui Langlois, la Cinémathèque, d'avoir volé, d'avoir comme ça. Mais Langlois faisait les poubelles. Langlois achetait des stocks de films pour un franc symbolique. Aujourd'hui, des grandes maisons comme la Fondation Pathé, Gaumont, etc., réécrivent un peu leur histoire et leur patrimoine. Patrimoine, c'est devenu un marché. Donc maintenant, il y a comme ça l'histoire des grandes maisons qui est réécrite et on vient à la Cinémathèque comme un comptoir à dire voilà, on vient récupérer nos trucs. Mais dans les années 40, 50, 60, ils n'étaient pas nombreux à penser ça. Donc aujourd'hui, on peut réécrire l'histoire. Oui, c'était pas forcément, c'était obscur, mais comme dans toute l'histoire des collections, je pense qu'on va dans n'importe quel musée. Je pense que, en tout cas, la Cinémathèque. Depuis que j'y travaille, depuis les années 90, fait un effort de restitution. C'est-à-dire qu'il y a un réseau qui existe, le réseau des archives de films. C'est quand même aussi ça. C'est Langlois conserver une tradition du secret, Marie Merson, etc. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de transparence et de coopération, et notamment de restitution. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a 2 ans, on s'est rendu compte qu'on avait le premier film de fiction béninois, et on a tout de suite fait une numérisation, on a tout de suite fait des copies qu'on va... donné au musée des Beaux-Arts de Porto-Corvo. Voilà, ou de Cotonou, mais non, plutôt Porto-Corvo. Et voilà, donc il y a un effort comme ça de restitution et de coopération, et c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait quelqu'un qui, ouais, peut-être qui pique un peu et qui mette de côté.
Merci. Comme vous le savez aussi, quel volume de cinéma muet a disparu en étant détruit, enfin, il fallait Langlois, à un certain moment, dit « ça suffit ». Et il commence à collecter d'abord lui-même et les bobines. Le cinéma n'était... Enfin, l'idée de le conserver, ça a été vraiment une de ses grandes idées.
Et ce qui est génial avec là, la déambulation de Rouge, c'est que on voit l'extrême diversité et l'absence de classification, de classement, de valeur, en fait. Et ça, je pense que ça devait m'émouvoir jusqu'à la moelle, Jean Rouge, quoi. Il y a quelque chose comme ça, dès que les films de n'importe quelle époque et de n'importe quel genre, en fait, se parlent.
Et puis ces documents qui sont des traces, justement, parce que les films sont disparus, en partie pas tous, bien entendu, mais le film étant disparu, ben, il reste au moins le scénario, il reste au moins des photos de tournage, etc.
Mais c'est aussi l'expression d'un goût, c'est-à-dire que Langlois n'a jamais été, par rapport au texte, moi j'aurais une mini-réserve par rapport au texte de Rouge, comme ça, ce monsieur veut tout sauver. C'est pas vrai. Langlois, c'était vraiment l'expression d'un goût. Il savait aussi choisir, bon, il avait bon goût. Il a été un des premiers à dire qu'il y a certains films mutilés, massacrés des années 30, La règle du jeu, La règle du jeu de Jean Renoir, La Talente de Jean Vigo, L'âge d'or de Buñuel, bon, voilà, trois films hyper importants des années 30 qui ont connu soit des massacres, soit des mutilations qu'on ne pouvait plus voir. Il a été un des premiers à les montrer inlassablement, à faire un effort comme ça de maturation, dire ces films ont été cachés, on n'a pas voulu vous les montrer, mais moi je vais vous les montrer, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Et donc c'est lui un des premiers qui a fait cet effort de maturation et de ce qu'on appelle aujourd'hui des films classiques. Et ça, on le doit quand même à ce geste de Langlois de montrer inlassablement et par comme ça imprégnation de dire je vais vous expliquer pourquoi ces films sont importants dans des copies atroces, hein. Évidemment c'est des films mutilés, donc dans des espèces de lambeaux, mais c'est quand même grâce à Langlois, et ça l'expression elle est de Godard, grâce à Langlois il y a eu quand même ces gestes qui ont permis de commencer les premières pierres de l'histoire du cinéma, et je pense que Jean Rouch est bouleversé par ça, ça se ressent.
Et puis un choix tout à fait affirmé, le musée n'est pas neutre, bien entendu, les salles sont disposées, on montre certaines choses et pas d'autres, on oriente, le néoréalisme c'est Rossellini essentiellement, même si on voit d'autres images, etc. Donc malgré tout, Langlois choisissait de quelle histoire il s'agissait et qu'est-ce qui était important justement dans l'histoire du cinéma, et il montrait ça dans son musée, dans ses projections très savamment orchestrées, avec où il faisait correspondre les films, des films qu'on ne s'attendait pas à voir ensemble et qui, voilà, une espèce de montage là aussi. On a beaucoup dit que Langlois mettait en scène les films, mettait en scène les metteurs en scène. Voilà, il les a pariés de manière peut-être pas tout à fait courante et pas tout à fait attendue.
Ce qui est vachement beau aussi dans le film, c'est qu'il y a il y a une truculence, hein, de Langlois. Le musée, c'est un peu un lupanar, c'est un peu un bric-broc, c'est un peu comme ça. C'est chargé, mais voilà, il y a une histoire très personnelle et surtout c'est un espace qui ouvre la parole. Et ça, je pense que Rouch, évidemment, il est hypersensible. Et c'est un endroit. Alors, sur Henri, il y a ce film d'un des assistants qui est Fred Savios, qui est un collègue, qui n'était pas du tout cinéaste, hein, qui était projectionniste, et puis qui, quand le musée a été noyé par les pompiers, a ressenti comme ça, quelques jours avant, il avait fait aussi, certainement, encouragé par
Rouch. Au mois de février, quelques mois avant.
Il avait été encouragé à filmer comme ça, parce qu'il s'était rendu compte, à mon avis, que ce musée, ben, il ouvrait la parole, quoi. C'est-à-dire que. Et c'est pas aseptisé, c'est pas scientifique. C'est-à-dire que Jean Rouch, il y a des inexactitudes, il dit des bêtises à des moments, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il marche, il continue de marcher comme ça, et c'est un ruban. Et finalement, c'est comme un film qui se déroule, et les gens y vont de leur conception et des objets qui vont. Et donc, il y a une grande générosité dans cette appropriation, je trouve. Et Jean Rouch ne pouvait aimer que ça, en fait. C'est une histoire parallèle, libre et libérée du cinéma.
Une sorte de manifeste, c'est un texte qui s'appelle « Pour un musée vivant » du cinéma, publié en 1949, si je ne me trompe pas, de Langlois, qui préfigure ceci. Il y a eu, comme je le disais, donc le musée, l'état du musée que vous voyez dans ce film, il existe de 1972 à 1997, donc pendant 25 ans. Auparavant, en fonction des stations de la Cinémathèque, il y a eu des mini-musées, des petits musées, par exemple, rue de Messine, rue de Courcelles, etc. D'ailleurs, il y a eu quelques films aussi de ça, où c'était vraiment réduit, et par exemple, les objets entassés dans des armoires, etc. Et donc, ce musée, pour Langlois, un musée du cinéma, devait être vivant dans beaucoup de sens, et peut-être principalement pour inciter la relève, la nouvelle génération a, en partant de cette histoire-là, de cette grande histoire du cinéma, à produire, enfin à continuer l'histoire en faisant en réalisant des films. Et naturellement, Langlois a soutenu tous les jeunes de la Nouvelle Vague. Enfin, avec, il les a stimulés autant et autrement que Rossellini. Enfin, le but, c'était que ces jeunes s'emparent, ces jeunes critiques s'emparent et deviennent cinéastes à leur tour pour prolonger cette histoire-là. Et en fait, lire l'histoire du cinéma, l'histoire du musée, à leur manière. Eux aussi prendre ce qu'ils voulaient bien prendre pour le prolonger et en faire des films. Là, vous avez vu aussi ce qui est frappant, c'est que Rouche dit assez régulièrement ben, « c'était pas comme ça avant, c'était pas comme ça ». Donc même pendant les cinq années où Langlois a constitué cet état-là du musée, bon, il y a eu des changements, il y a eu des choses qui sont parties, qui sont revenues, etc. C'était un mouvement perpétuel, enfin voilà. Comme par exemple l'Atlas d'Abi Warburg au début du siècle, qui était constamment refaçonné. Voilà. Je pense qu'une des caractéristiques aussi bien de Langlois que de Rouche, que de Rossellini, que des jeunes de la Nouvelle Vague, c'est la dynamique, le fait que les choses ne sont pas fixées et qu'on peut constamment les réarranger, les remettre ensemble pour générer un nouveau sens, voilà, pour faire apparaître de nouvelles choses.
Centimètres de film flamme, vous aviez la salle des grands pierres, vraiment, c'était très très dangereux, au point qu'à Bois d'Arcy, les films flammes sont conservés dans le fort militaire de Bois d'Arcy, dans des murs absolument incroyables, et Langlois a sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qui étaient très dangereux, qu'on ne pouvait plus montrer ni rien. Et puis, petit détail, j'ai eu la chance de passer des nuits entières avec Langlois dans le fameux escalier. Et il a sauvé vraiment ses films, ses chefs-d'œuvre du cinéma pour ça. Et il est très probable qu'il n'a demandé l'autorisation à personne, qui les a dupliqués, heureusement, sans quoi.
Il a reçu un Oscar pour avoir sauvé le cinéma américain.
Du film, sur le son, comment était parce que le son est aussi très émouvant, il est très près, des fois on sent la respiration de Rouche, etc. Comment est-ce qu'il était équipé en son Rouche, enfin, comment...
Ah, c'est un copain, donc un ingénieur du son qui s'appelle François Didiot, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui, il y a quelques années déjà. Et qui faisait le son, et qui est d'ailleurs complice de pratiquement tous les tournages qu'on a fait avec Jean. Il y avait aussi François Didiot qui était là, donc qui perchait, quoi. Mais bon, il perchait très habilement, on le voit pas.
Ouais. Et je me suis demandé, enfin, quand même, s'il n'y a pas deux, trois passages de son off.
Ah oui.
Qui ont été rajoutés plus tard.
Oui, il rajoute des légendes. Ouais. Il fait son savon en disant oui, Prévert.
Par exemple, le passage sur Francesca Bertini, ouais. C'est un texte de Langlois qui en parle et Rouche le lit après. Parce que sans doute, il n'a pas pu le faire au tournage.
Oui, où il y a eu un bafouillage à ce moment-là. Donc après.
À Paris aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui à Paris, je pense que les enjeux sont liés aux Jeux Olympiques, chère madame.
Est-ce qu'il y a de la place à la cinémathèque?
Le bâtiment ne permet pas, en tout cas, de faire les, de faire. Et même le musée du cinéma au deuxième étage était trop petit. C'est ça aussi qui a convaincu les commissaires, les conservateurs de faire vraiment. Et puis on avait cette collection Méliès, dont, à qui il fallait rendre hommage. C'est-à-dire que Madeleine Maltet-Méliès, c'était une promesse qu'on lui avait faite. On a la plus grande collection au monde. Et je pense que c'était un voilà, ce musée datait de 2005. Il était temps de peut-être de repenser un peu. Surtout qu'il avait un peu comme ce que décrit, voilà, c'est qu'il avait bougé, il y a des rotations, on prête des œuvres, etc. Donc même là, le parcours ne voulait plus dire grand-chose. Mais oui, je suis complètement d'accord avec vous. Alors je sais que Lumière, à l'Institut Lumière à Lyon, ils ont le projet de faire un musée du cinéma, ce serait bien aussi. Mais voilà, c'est... Qu'est-ce qui se passe à Bercy? Il y a cette belle expo Méliès et il y a d'autres expos temporaires. Il n'y a pas un espace, il n'y a pas un troisième espace qui permettrait de faire un musée correct. C'est-à-dire qu'il y avait aussi ça, c'est-à-dire qu'on savait dès le départ que ce deuxième étage était trop petit pour faire un musée du cinéma digne de ce nom comme à Chaillot.
Donc. Tokyo est tellement grand et tellement de merde à la question de Dieu.
Attends, on va voir si on ressort le dossier du palais de Tokyo. D'ailleurs, on va passer un film d'Emmanuel Kuo bientôt sur ce dossier-là, sur le palais de Tokyo. Son premier film, en fait, c'est son film de fin d'études pour la FEMIS. Le Palais de Tokyo. Ouais, c'est un teaser, en novembre.
Bon, Andrea, je te laisse donner le prochain rendez-vous.
Prochain rendez-vous, mais je dois vous dire malheureusement que Oasis Diop, le lecteur attendu, ne peut pas. Il est en train d'enregistrer son nouvel album entre Dakar et Paris, donc il ne pourra pas être là. On travaille activement à le remplacer, voilà. Et donc on ne sait pas qui sera le lecteur du prochain rendez-vous, qui concernera le cœur même du cinéma de Jean Rouche, c'est-à-dire la troupe qu'il a créée, avec laquelle il a travaillé toute sa vie au Niger, Damourezika, Lam Ibrahim Dia, Talou Mouzouran, Moussa Amidou, voilà, c'est eux qui seront les héros de la prochaine séance. On quittera la France et on ira au Niger. Voilà. Merci beaucoup.